pour la prochaine étape, je vais inviter le frère Jérémy de s'avancer et c'est lui qui va conduire ce moment.
Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, les bonnes choses vont enfin se passer maintenant. Comme vous le savez, nous avons eu une série d'enseignements sur les thèmes que vous tous vous connaissez, j'espère. Quel est le thème que nous sommes en train de développer pendant ces mois-ci? Est-ce qu'on peut les crier? Good news, c'est ça. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et tu lui dis good news? Good news, voilà. Donc, bonne nouvelle. Et nous avons eu Papa Muyonga qui a prêché pendant 2 semaines successives. Combien étaient là quand Papa Muyonga, Docteur Muyonga a partagé la parole? Vous pouvez faire un signe de la main. Voilà, quelques personnes. Il l'a fait pendant 2 semaines. Et le dimanche passé, nous avons eu la grâce d'avoir notre frère Jean Grady qui également a partagé la parole avec nous. Et donc, combien étaient là aussi le dimanche passé? Est-ce qu'on peut aussi les manifester? Voilà, je vois que c'est une grande partie d'entre vous. Et aujourd'hui, il y a eu des questions que nous avons envoyées au courant de la semaine. Et aujourd'hui, nos orateurs vont y répondre par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, je vais les inviter à me rejoindre ici, afin que nous puissions déjà commencer à répondre à certaines de vos questions. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, bienvenue, docteur. Bienvenue, Jean Grady. En tout cas, c'est un plaisir. Vous pouvez vous mettre. Le nom Jean Grady, je ne peux pas l'oublier. Hein. Vous savez, j'ai essayé de regarder dans mon répertoire du téléphone pour trouver s'il y avait un Jean Grady. Il n'y en a pas. Mais il y a quand même quelques Isaac. Donc, ce sont des noms assez uniques. C'est vrai que nous sommes tous uniques d'une certaine manière, mais lui, particulièrement, son nom les rend encore plus uniques. Donc, bienvenue, bienvenue Jean Grady. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue, docteur.
Merci.
C'est vraiment une bénédiction de vous avoir. Alors, sans plus tarder, nous allons, je crois, commencer, n'est-ce pas, à répondre à ces quelques questions que nous avons reçues au courant de la semaine. Voilà, la première question, c'est à propos de certains messages que le docteur Muyonga a donné. Je pense que c'est le deuxième où vous nous avez parlé de 2 brigands qui étaient à côté de Jésus sur la croix. Mais le principe de ce panel est que s'il vous arrive d'être inspiré par la réponse de l'autre, vous dites aussi quelque chose, un ajout, ainsi de suite. Mais la première question concerne justement le deuxième message du docteur Muyonga. Et cette question dit, 2 brigands à côté de Jésus à Golgotha. L'un reconnaît et reçoit la grâce. Ça veut dire que l'un s'est repenti et a reçu la grâce. Et là, on dit, Christ est trop sensible à ceux-là qui se reconnaissent et qui demandent pardon. Mais que dire de ces personnes qui demandent pardon et reviennent aux mêmes erreurs? Que dire de ces personnes qui, c'est vrai, ils se sont repentis, ils ont été pardonnés, mais ils retournent encore vers les mêmes erreurs? C'est la question. J'espère qu'elle est claire.
Elle est claire et difficile aussi. C'est vrai que nous avons vu au milieu de nous des gens qui disent « Pardonne-moi ». Peut-être que c'est d'ailleurs à vous que cela a été adressé, pardonne-moi. Et puis après, vous trouvez qu'ils reviennent dans les mêmes erreurs. Le texte qu'on a lu sur les 2 brigands qu'on peut retrouver dans les évangiles présente en fait le deuxième là comme une personne qui a suivi la procédure de repentance. Il a d'abord reconnu qu'il était brigand et que c'est à cause de ses fautes qu'il est sur la croix. Donc, il est conscient de ses erreurs. Et alors, il a trouvé que celui qui peut lui venir en secours, c'est Jésus, à qui il a demandé secours et dire, Seigneur, il a reconnu à lui qui est sur la croix comme Seigneur. Ne m'oublie pas quand tu viens dans ton royaume. Et donc, je crois que le premier problème, c'est le fait qu'il y en a ceux qui demandent vite pardon sans avoir réfléchi sur leurs erreurs, sans avoir été conscients qu'ils ont commis une erreur. En fait, pardon, pardon devient comme quelque chose un peu d'automatique.
Une formule pour s'en sortir.
C'est ça, donc peut-être pour s'en sortir, comme vous le dites, mais pas parce que quelqu'un a réfléchi sur sa faute, sur son péché, et l'a regretté. Je suis sûr que si une personne a cette habitude de demander pardon, sans avoir regretté, parce que quand on regrette l'erreur, on a honte. On a honte d'avoir commis ce péché-là. On le regrette. Et donc, on demande pardon parce qu'on ne veut plus revenir dans la même situation et dans la même honte. Mais lorsque ça devient une habitude de demander pardon sans avoir regretté, comme cela a été le cas pour ce brigand qui a vraiment regretté, qu'il reconnaît qu'il est fautif et que finalement il est sur la croix. Et alors, sur base de cela, il demande pardon. Je crois que si vous allez remarquer des personnes comme ça dans la famille, ça se trouve en famille, ça se trouve au service, ça se trouve à l'école, et peut-être même à cours de route, quelqu'un qui te demande pardon, il faut lui poser la question, est-ce que tu regrettes même ce que tu as fait? Oui, parce que s'il demande pardon sans avoir regretté, c'est juste une façon, un outil d'éviter la colère en fait, qui pouvait tomber sur lui. Et c'est pourquoi des personnes comme ça peuvent demander pardon et le lendemain, ils retombent dans la même erreur. Parce qu'ils n'ont pas regretté et n'ont pas compris que c'était grave ce qu'ils ont pu faire.
Okay. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette réponse? Donc, une première étape du vrai pardon, c'est d'abord de réfléchir sur ce qu'on a fait, de regretter. Et enfin, on peut maintenant l'exprimer. Je ne sais pas si Jean Grady a quelque chose à ajouter, des éléments, des réponses aussi à la même question. Oui.
Je crois que papa était clair. Bonjour d'abord. Hein? Est-ce que vous allez bien? Voilà, je suis très content d'être là, le frère Jean Grady. Merci pour ce cadre et pouvoir échanger encore. Justement, partant de la réponse que papa a donnée, il a vraiment été clair par rapport à cela. Il y a quelque chose que j'aime dans la parole de Dieu. La Bible l'appelle la tristesse selon Dieu. Mm-hmm. Vous savez, quand vous commettez un péché ou bien vous commettez une erreur, comme cela est dit, il faut avoir cela, la tristesse selon Dieu. Je le trouve dans 2 Corinthiens 7, 10, je vais lire rapidement. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, il ne faut juste pas regretter, mais regretter selon Dieu. Et le regret selon Dieu consiste justement à vous approcher de lui pour ne plus revenir dans ce que vous avez eu à faire. Mais deuxième chose que j'aimerais aussi rajouter partant de ce que papa a dit, c'est que frère Jérémy, quelquefois la récidive est le signe d'un manque d'espoir. C'est-à-dire, on ne croit plus à des choses auxquelles on était attaché. On s'est dit, ça ne sert plus à rien. Tant mieux revenir sur les choses que nous faisions. Parce qu'en arrêtant même les choses que nous avons faites, nous, entre guillemets, aussi, nous n'avons pas vu un changement. Ça me rappelle l'histoire de l'apôtre Pierre. Jésus a dit, tu seras pécheur d'homme. Mais quand Jésus était mort et que les bruits couraient, que l'histoire était finie, on remarque Pierre revenir vers le poisson. Vous voyez, ce désespoir-là aussi produit la récidive. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe dans quoi vous êtes tombé, revenez au Seigneur. S'il vous a dit des choses, il le fera et il le fera certainement.
Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour cette réponse? La tristesse selon Dieu. Amen. La tristesse selon Dieu, c'est ça même qui produit la vraie repentance. Maintenant, ça soulève quand même une question dans mon esprit pendant que vous êtes en train de parler. Je m'excuse, je sais qu'elle n'est pas sur la liste, mais est-ce qu'il y a une différence entre avoir des simples remords et la repentance? C'est juste une question peut-être que quelqu'un peut se la poser. Quelle est la différence entre avoir seulement des simples remords? Parce qu'il y en a qui regrettent, ils ont des remords, mais est-ce que réellement ils sont arrivés à ce point-là de la repentance?
Papa, vous commencez?
Je ne sais pas si je... J'ai vraiment une réponse. Je crois que ça nous est arrivé nous-mêmes de regretter ce que vous avez fait ou de regretter parce que vous vous êtes comporté d'une manière ou d'une autre. Mais ne pas avoir l'occasion d'aller demander pardon. Ou peut-être même ne pas vouloir le faire. Oui, ces remords-là ne vous ont pas amené un point culminant important, de demander pardon. Parce que demander pardon, c'est un courage particulier. Cela veut dire effectivement qu'il ne faut pas s'arrêter toujours au remords. Il faut vous rassurer que les remords vous ont amené à faire face à face à l'acte que vous avez posé et à décider de ne pas y revenir. Et si vous l'avez fait à quelqu'un, ce n'est pas facile hein, de prendre la décision d'aller et de lui dire, mon frère, ma soeur, je me suis mal comporté. C'est ça que nous attendons au point culminant.
Oui.
Sinon, les autres éléments là, c'est bien. Tout être humain, même un voleur ou un bandit ou un assassin, il a toujours des remords. Nous avons eu des occasions d'accompagner des personnes qui ont connu des situations comme ça, comme des enfants soldats qui ont assassiné des gens, qui ont vu des gens enterrés vivants et qui se rappellent de ces situations-là. Si vous pouvez prendre son image lorsqu'il participe à la scène, vous ne pouvez pas penser qu'il a des remords. Ouais. Mais après, vous comprenez qu'il portait un grand poids qu'il faut amener à Jésus pour qu'il puisse se décharger. Donc, tout être humain normal a des remords. Mais tous les remords, malheureusement, n'amènent pas à la repentance.
Merci beaucoup pour cet élément. Vous avez des ajouts ou on peut passer à la deuxième question? Merci beaucoup. Voilà, on passe à la question suivante. Voilà, c'est une question vraiment qui fait suite à la première. Parce que cette personne demande comment avoir l'assurance du pardon si on n'a pas palpé la repentance. Je lis la question telle qu'elle nous a été communiquée. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance du pardon si on n'a pas palpé la repentance? Il y a deux concepts là, pardon et repentance. Je vais commencer avec le frère Jean Grady et puis, docteur, si vous avez des ajouts, vous pourrez aussi en parler. Voilà.
Bon, je crois que la personne en posant la question a remarqué le chemin qui mène vers cela. C'est que lorsque vous êtes conscient d'avoir mal fait et que vous avez besoin que Dieu vous pardonne, ipso facto, il faut passer par la repentance. Il n'y a pas un autre chemin. Si vous ne passez pas par cette repentance-là, comment Dieu vous pardonne alors que vous n'avez pas pris conscience de ce que vous aviez à faire? J'aime bien l'exemple de Zachée. Quand Jésus entre dans sa maison, il prend conscience de tout le mal qu'il avait fait. Et c'est lui qui étale ce qu'il avait fait auprès de Jésus par rapport à tout ce qu'il prenait comme illégal sur le tribut des autres. Donc, je pense que cette conviction de pardon de Dieu a part du principe que nous reconnaissons le tort que nous avons fait à Dieu. L'autre image qui me touche généralement dans la parole de Dieu, c'est le fils prodigue.
Oui.
Remarquez que le père était disposé à faire la fête, disposé à l'anneau, mais le père n'était jamais disposé à aller les récupérer là où il était. Mais le père était disposé à le recevoir. Donc, tant que tu n'as pas encore quitté le pourceau, venir vers le Père, ce n'est pas au Père de venir là-bas pour organiser la fête vers le pourceau. Je crois que nous avons notre part de responsabilité, c'est de venir auprès de Dieu et Dieu nous accordera son pardon.
Waouh. Merci beaucoup. Je me sens vraiment très béni par cette intervention. Avant que je ne commente, docteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus?
Oui. Quand le frère Jean Grady parlait, je me suis rappelé de témoignages d'une personne qui est venue à Christ, qui est devenue, la plupart des gens, plus, surtout le plus âgé, le connaissent. Il a été un chantre en Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Kenya. J'étais son nom. Mais il dit que lui, quand il a reçu le Seigneur, c'était dans une grande campagne. D'abord, il était un grand bandit. Il a fait tous les péchés. Et puis, il arrive dans une campagne d'évangélisation. Vous le savez que quand on veut demander aux gens de croire au Seigneur, on dit, si tu trouves que tu veux croire au Seigneur aujourd'hui, lève ta main. Il a levé la main.
Oui.
Alors, on a dit, tu peux mettre ta main à la poitrine et tu répètes cette prière.
Oui.
Seigneur Jésus, vous connaissez cette prière.
Oui.
Merci pour avoir porté mes péchés. Et alors, on a fini la prière et l'évangéliste a dit, Jésus-Christ est entré dans ta vie. Oui. Il dit, lui, a fait comme ça. Il a dit, c'est faux. Peut-être que Jésus ne sait pas ce que j'ai fait.
Vraiment.
C'est ça. Donc, palper la repentance, parfois, ça ne vient pas le même jour où tu te lèves pour dire, je crois au Seigneur. Beaucoup de gens ont fait une guerre avec ce qu'ils ont fait et on les découvre pendant les séances d'affermissement. Le Satan revient pour te dire que ce que tu as fait était tellement grand qu'on ne peut pas te pardonner tout simplement parce que tu as fait une courte prière. C'est ça. Et alors, plus vous marchez dans l'affermissement, maintenant, vous comprenez qu'effectivement, Jésus-Christ est venu directement. Comme vous avez vu, comment il a vite répondu à celui-là qui a demandé le pardon. Il y en a ceux qui pouvaient douter. S'il se rappelle de ce qu'il a fait dans la cité. Mais il a été pardonné. Et donc, il faut qu'il marche dans cela, dans des séances d'affermissement, pour maintenant commencer à comprendre effectivement qu'il a été pardonné malgré la grandeur des erreurs qu'il a commises.
Wow, merci beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de gens qui marchent sans l'assurance justement de ce pardon, parce qu'on n'a pas encore compris combien justement Jésus a tout payé.
Oui.
Combien, quand on revient vers lui, comme le frère Jean Grady vient de le dire, que lui, il est toujours prêt à nous accueillir.
Oui.
Mais ce n'est pas lui qui est allé chercher le fils. J'ai beaucoup aimé cette illustration. Il faut que vous-même, vous puissiez reconnaître, que vous puissiez aussi reconnaître qu'il est capable de vous pardonner. Peu importe la grandeur ou la petitesse de ce que vous pouvez avoir fait, il est prêt à marcher avec vous dans un processus de restauration, n'est-ce pas? Mais alors, est-ce qu'on peut dire que la repentance, elle est en une seule fois ou bien c'est un processus continuel de la vie du chrétien? C'est juste une question que j'ajoute là-dessus. Peut-être ça pourrait aider quelqu'un.
Je crois qu'il y a là où on commence.
Oui.
Et c'est un point important.
Oui.
On ne doit pas se retrouver dans le processus sans avoir fait le premier pas.
Okay.
Donc, il faut toujours faire le premier pas.
Wow. Merci.
Je crois que c'est celui-là. Il faut commencer par ce premier pas.
Oui.
Et au fur et à mesure aussi, ça c'est aussi très important dans la marche avec Dieu, c'est qu'on se découvre. De la même manière que nous découvrons les seigneurs, nous nous découvrons aussi nous-mêmes.
Oui.
Il y a des choses, si vous marchez avec Dieu déjà depuis quelques années, vous allez vous rendre compte que certaines choses, vous ne vous plaignez pas avant. Mais maintenant, chemin faisant, vous vous êtes plein. L'image qui me vient tout de suite là, c'est l'image des enfants d'Israël dans le désert.
Oui.
Il y a un moment où ils se plaignent pour le pain. À un moment, il se plaint pour l'eau. À un autre moment, il se plaint pour le fait que le voyage est long. À un autre moment, il se plaint parce qu'il n'écoute pas Dieu directement.
Ouais.
Donc, au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, nous découvrons nos incapacités. Nous découvrons nos erreurs, même que nous croyons que nous étions sur le bon chemin. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que cette repentance-là, que nous avions déjà enclenché le processus, comme papa l'a dit, mais au fur et à mesure que nous nous découvrons,
nous
continuons. Ah Seigneur, pardonne-moi ça, je ne savais pas, j'étais ignorant par rapport à ça. Aide-moi encore à aller plus loin que ça.
Amen, amen. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. C'est un processus. Merci beaucoup pour l'illustration des enfants d'Israël. Et je pense que c'est ça, quand on est entouré de personnes matures, c'est là qu'on se rend compte que il y a quand même des choses chez moi qui ne marchent pas. Quand tu sens que leur langage est plus épuré, leur langage est plus sain, tu te dis, ah, quand même, il faut que j'apprenne aussi à bien parler, n'est-ce pas? C'est un peu ça aussi avec Dieu, je crois. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On va passer directement à la troisième question, qui est la plus longue, je vous signale. J'espère que la personne qui l'a posée est ici. Donc, je vais tenter de la lire. Cette question dit, quand nous parlons de good news ou bonne nouvelle, donc, nous parlons de Jésus qui était Dieu, ou qui est Dieu, et sa mission comme sauveur de l'humanité. Un homme qui était encore dans la confusion disait, « Jésus n'est pas Dieu », en disant, « Jésus a dit, « J'en boirai de nouveau dans la maison de mon Père. » Comment déboucher son ignorance? Parce que la Bible dit, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » J'espère que la question est claire. Bon, je vais l'expliciter pour l'audience. Donc, en principe, ces frères ou cette sœur pensent que, comme Jésus avait déclaré à ses disciples lors de la Sainte Cène, qu'il boira de nouveau, il boira de nouveau de ses vins quand il sera dans la maison de son Père. Et donc, Jésus n'est pas Dieu à cause de cette déclaration-là. Alors, comment aider cette personne qui pense que comme Jésus a un Père, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, je pense. Comment on peut aider cette personne pour la sortir de cette ignorance? Voilà. On va commencer avec le docteur Myonga et après, le frère Jean Grady va aussi compléter.
C'est un débat clair que nous allons rencontrer sur le terrain lorsque nous apportons le message de la croix. Mais comme je vous ai dit, il faut vite là éviter d'entrer dans le débat et dans la démonstration. Parce que nous travaillons par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous en avons trouvé, mon épouse n'est pas là, mais je lui ai donné une expérience vraiment vivante et la personne est à Goma. Si je cite son nom, vous connaissez la personne qui fut musulman, journaliste, et il garde son père en soins intensifs. Mon épouse travaille là-bas. Et alors, il partage, il voit une personne, en fait, habillée en musulman, mais qui garde son père en soins intensifs. Et il lui partage le message. Il sait qu'il le partage à un musulman. Et le musulman lui dit, on va continuer l'entretien quand mon père sera guéri. Mais son père n'est pas guéri, il est décédé. Et alors, mon épouse partage cela et nous allons au deuil dans le quartier Virunga. Et on partage encore la parole de Dieu. Il réveille ce débat-là de Jésus, Issa, ainsi de suite, qui n'est pas Dieu. Et il nous donne le Coran. Il me donne le Coran pour que je puisse aller le lire. Et j'ai pris le Coran. Je suis allé le lire à la maison. Je crois que j'ai fait 6 mois avec le Coran. Il est difficile de comprendre ce qui est dans le Coran. D'abord, vous lisez en partie de la fin
pour arriver vers le début. Oui.
Je connais certaines histoires que j'ai trouvées dans le Coran. Et 6 mois après, on est rentré encore avec mon épouse pour lui partager la parole. Alors, il nous pose une question. Est-ce que je peux être chrétien tout en étant musulman? Vous suivez la question?
Oui.
Alors je lui réponds, ou bien mon épouse répond pour dire, l'important ici c'est recevoir Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est dans ta vie, il te dira si tu peux être musulman, peux être chrétien tout en étant musulman. Et le dimanche prochain, il vient à l'église. Ici, nous étions encore ici au Cap,
oui,
dans l'ancien bâtiment. Il vient habillé en musulman.
Oui.
Donc, il pratique ce qu'il a dit. Est-ce que je peux être chrétien tout en étant musulman? C'est ça. Et il y a eu éruption volcanique et on a oublié. Il est passé à la maison pour dire qu'il a eu une bourse pour l'Arabie,
oui,
saoudite. C'est une longue histoire, mais je peux vous dire que quand il me parlait, je priais pour dire il ne faut pas que cette bourse-là aboutisse. Et après, je le trouve à court de route. Celui qui me dit qu'il est devenu chrétien,
wow,
et qu'il est
gloire
membre de la paroisse La CEPAC.
Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire
du Seigneur? Il faut éviter le débat.
Oui.
Il faut vous soumettre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses que nous ne comprendrons pas.
Amen.
Parce que ce n'est pas nous qui transformons les gens. Je vous ai parlé de naître de la parole. Et de l'eau et de l'esprit. Généralement, nous reconnaissons les jours que nous avons eu la parole. Mais ce que Dieu fait pour nous transformer, si quelqu'un commence à raconter ça, c'est qu'il ment. Parce que nous ne savons pas ce que l'esprit fait pour transformer une personne.
Oui.
Alors, allez dans les champs par le pouvoir du Saint-Esprit.
Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Donc, si je peux résumer quelque chose, un élément clé là-bas, c'est que l'évangélisation n'est pas pour débattre très longtemps, pour essayer de prouver combien on a raison, ainsi de suite, mais nous devons toujours nous laisser guider par le Saint-Esprit qui convainc, n'est-ce pas? Qui convainc? Prier, je pense que ça, c'est aussi un élément très important. Prier pour la personne qui est encore dans la confusion, afin que le Saint-Esprit lui-même puisse l'amener à ce moment-là des convictions. Amen. Jean Grady.
Oui, je crois que papa l'a si bien dit. Je vais juste rebondir sur la question de la prière.
Oui.
Prier pour ces genres de personnes afin que le Seigneur se révèle à eux. C'est très important. Pourquoi? Il y a des déclarations fortes que Jésus a faites. Je vais quand même lire l'une d'entre elles. Jean 16, 2. Jésus dit, il parle de ces siècles-là. Il dit, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire que les gens peuvent tellement plonger dans la confusion au point de croire que même Dieu est d'accord avec eux.
Ouais.
Vous voyez? Donc c'est un niveau très difficile. Comme papa l'a dit, si nous engageons le débat, nous risquons de les perdre encore. Ouais. Présentons l'évangile dans toute sa simplicité et continuons à prier pour ces personnes-là, afin que le Seigneur puisse se révéler à eux. Et j'aime quelque chose d'important aussi, toujours dans le livre de Jean.
Oui.
Jean 20, le verset 28, on parle de Thomas qui n'avait même pas cru que Jésus était ressuscité. Mais quand Jésus se révèle à lui et qu'il le demande de venir toucher ses mains qui étaient percées, écoutez la déclaration que Thomas fait. La Bible dit, Jean 20, 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Tout le monde savait que Jésus était Seigneur, mais personne ne l'avait encore appelé ces jours-là, mon Dieu. Mais parce que quelqu'un a vu au-delà, au comble de son incrédulité, la révélation du Seigneur, ça perçait tellement son âme qu'il s'est dit, celui-ci n'est pas que le Seigneur. S'il n'est peut-être pas le Dieu de tous ceux qui sont ici, à partir de maintenant, Jésus, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Wow. Donc, quand les gens doutent de Jésus à ce point-là, il faut vraiment prier pour eux, pour que le Seigneur se révèle à eux. Et quand le Seigneur se révélera, bien sûr, à eux, ils iront eux-mêmes, comme papa l'a témoigné, et même ils vont confesser, on se rappellera des Saul de Tarse, qui étaient vraiment dedans, mais dans l'autre côté. Mais quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, il a rencontré le Seigneur, ça a tout de suite changé sa manière de voir les choses.
Amen, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur encore une fois? Et pour ces éléments de réponse qui nous éclairent, qui nous montrent que Dieu est capable encore de sauver des personnes. Et donc, ne désespérons pas. Ces personnes peut-être qui sont dans nos familles, qui sont dans notre entourage, et nous pensons peut-être qu'elles sont si loin, même si nous avons tenté de partager l'évangile avec elles, et on ne voit pas les changements venir, prions sans cesse. Prions sans cesse pour eux, parce que Dieu est capable de les sauver. Amen. Alors, il y a une autre question. Je pense qu'il a été suscité par le message de la semaine passée, parce que c'est une question qui parle du message et du messager. Et la question dit, que faire pour être un bon messager et transmettre les messages fiables? Voilà, je la pose de cette manière.
Alors, je crois que je l'ai dit le dimanche dernier. C'est vrai que ma pédagogie consistait à mettre en équilibre le messager et le message. Et justement, parlant de messager, je dis, pour être un bon messager, il fallait avoir le témoignage. Et si je peux ici rabattre encore de manière simpliste, c'est juste rencontrer personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. À partir de là, votre vie, votre rencontre, est-ce que vous savez de la parole de Dieu, va aussi convaincre les autres. J'ai partagé en image de la femme samaritaine qui avait un passé, comme on dirait, le CV était très chargé, mais quand elle a rencontré Jésus, même avec le palmarès de cinq maris, elle n'en a point eu honte de pouvoir partager aux autres. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que je fais. En réalité, c'est cette rencontre-là. C'est le fait que le Seigneur l'a touchée. Et alors, c'est devenu aussi la conséquence logique. L'autre côté, je crois qu'on reviendra même sur d'autres lignes, mais aussi, pour être un bon messager, c'est aussi un acte d'obéissance que nous sommes des messagers. Nous ne sommes pas forcément des messagers parce que nous le voulons. Non, nous le sommes par obéissance. C'est parmi les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de partir. J'ai même vu que c'est affiché là-bas, mais en anglais. En français, c'est « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisants et les enseignants et tout le reste. » Et moi, je me dis, nous sommes Africains. Et le côté africain, c'est que les dernières paroles de quelqu'un qui est passé par la mort ou de quelqu'un qui veut mourir, en lingala, on dit « malobaya mouwe », ça pèse tellement. quand papa, avant de partir, vous a dit cette parcelle n'est pas à vendre, même si qui vient après, papa avait dit. Et allez, faites de toutes les nations les disciples, c'est vraiment la dernière parole de notre maître avant qu'il puisse partir, qui nous a demandé justement de pouvoir aller. Donc, notre témoignage avec les seigneurs, notre rencontre, fait partie des critères pour être un bon messager, mais aussi cette obéissance-là par rapport à sa recommandation. Mais autre chose aussi que j'avais dit le dimanche dernier, j'avais dit que ça nécessitait un sens de sacrifice. Je l'ai appelé les prix à payer. Toutes les fois, ça ne sera toujours pas rose. Ça ne sera toujours pas vous prêcher ou vous apporter la parole pour être un messager. Et puis, c'est oui et amen. On l'a vu, quelquefois, les gens vous poseront de débats. Quelquefois, les gens rejetteront. Quelquefois, les gens attaqueront votre propre vie. Les étudiants sont peut-être là. Moi, je me rappelle, parce que je viens de finir mes études il n'y a pas longtemps, et que quand on prêchait dans les auditoires, on pasta. Tout ça, c'est moi pour les offrandes. Tous ces beaux Français-là, c'est juste pour les offrandes. Vous voyez? Donc, on essaie un peu de rejeter l'opprobre sur vous pour vous montrer que ce que vous faites là, c'est parce que vous avez un intérêt personnel dedans. Pourtant, c'est au nom de leur salut. Donc, quelquefois, ça ne sera pas toujours facile. Mais par la grâce de Dieu, par le soutien du Saint-Esprit, en ayant son témoignage de son propre salut et payant ces prix-là, acceptant d'être rejeté, acceptant d'être honteux, mais pourvu que la gloire de Dieu lui soit rendue.
Amen. Gloire au Seigneur. Docteur,
c'est amen.
C'est amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour la gloire du Seigneur? Waouh! C'est très bon. Donc, il est pratiquement impossible d'avoir rencontré le Christ ressuscité et de rester demeurer la même personne. Pratiquement impossible. Il y a toujours quelque chose qu'on voit chez vous. C'est dit, son langage a changé. Même Pierre, quand il a renié Christ, quand même on le regardait, on s'est dit, tu dois être l'un de ces Galiléens. Il dit, non, je ne suis pas, parce qu'il y a toujours quelque chose de différent quand on a passé du temps ou quand on a expérimenté le Christ. Amen. Voilà, c'est la première chose, les témoignages et aussi les prix à payer, l'obéissance à ces commandements-là qu'il nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, la cinquième question fait allusion à la peur. Je pense que nombreux d'entre nous n'ont pas ce courage-là d'aller évangéliser parce qu'on a peur. On a peur. Alors, la personne qui a posé cette question demande, que faire? Quelle stratégie adopter pour vaincre cette peur-là de partager l'évangile? Docteur?
Je crois que il n'y a pas une autre solution que de... Ce qui vient en tête, en fait, c'est quand vous voulez aller en douche, vous vous lavez, et qu'il fait froid, et que l'eau est froide.
Oui.
C'est ça, vous savez... Tout le monde. J'ai grandi, dit qu'on compte 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Oui. Et puis vous jetez le.
Faut se lancer.
C'est ça, il faut se lancer. Voilà. Il faut y aller.
Voilà.
Nous avons tous connu la même peur. C'est vrai que le meilleur exercice, c'est commencer par un groupe. Vous commencez dans le groupe.
Ouais.
En plus, vous avez du temps dans le groupe, vous allez le faire seul. Mais l'évangélisation n'a pas qu'une seule stratégie.
Exact.
C'est d'ailleurs ce que Jacques Grady vient de dire. Ce n'est pas seulement le message, mais c'est le messager aussi. C'est la vie du messager. Donc, il y a beaucoup de choses que nous transmettons par la vie. Oui. Et d'ailleurs, les gens vous diront longtemps après, quand tu étais ici, tu nous as aidés dans ceci ou ceci.
Ouais.
C'est pour cette raison-là que nous avons fait ceci. Donc... si vous n'avez pas encore ce courage de vous jeter dans l'eau froide, faites la vie. Faites des actes. Nous prêchons par la parole et les actes.
Et donc, que nos vies soient des témoignages vivants de ce que nous avons réellement rencontré le Christ ressuscité. Et cette expérience, elle est vraie. C'est un témoignage de beaucoup de frères et de sœurs que je rencontre qui me diront que, en tout cas, quelqu'un m'a dit, c'est parce qu'ils m'ont vu, la manière dont je vis, la manière dont je parle, c'est ça qui les a inspirés. Ils ont dit, non, il y a quelque chose de différent à propos de cette personne et que j'aimerais aussi avoir. Donc, la façon dont nous vivons, elle est clé vraiment dans cette affaire. Amen. Très clé, même quand tu es dans un bus, même quand tu es au marché, Watch yourself, regarde-toi. Amen, parce que tu es en mission. Cette huitième question que je trouve quand même importante, cette huitième question, elle est vraiment importante et je veux quand même que vous puissiez éclairer davantage notre audience par rapport à cela. Elle dit, pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante? Pourquoi elle est si importante? N'est-ce pas? Parce que justement, je voulais juste blaguer un peu. Généralement, quand nous chantons, c'est à propos de la croix. On a même des croix partout, ainsi de suite. Et donc, quelque part, on peut donner l'impression aux gens qui arrivent ici qu'en tout cas, ce qu'on célèbre, c'est la croix, ainsi de suite. Mais on se rend compte quand même que la résurrection est importante. Pourquoi est-ce qu'elle l'est? J'ai vu Jean Grady sursauter, donc je vais commencer avec lui. Et après, le docteur Myogre.
Alors, écoutez ce que l'apôtre Paul dit sur le sujet. 1 Corinthiens 15, 17. J'aime beaucoup ça. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans le péché. Ouais. Selon l'apôtre Paul, la résurrection est la base, c'est le fondement de notre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est l'étape triomphale du ministère du Seigneur. Et accordez-moi un peu de minutes, je vous parlerai de ces trois significations. Pourquoi c'est vraiment une triomphe importante de notre base?
Oui.
Premièrement, c'est à cause des Juifs. Les Juifs savaient que Dieu les avait promis un Messie.
Oui.
Et toute la vie du Messie était justement retracée dans les Écritures.
Oui.
Alors, quand Jésus est venu et qu'ils n'ont pas cru en lui, et que les bruits couraient que Jésus était le Messie, alors il y avait comme ça deux événements qui attestaient tout le jour s'il était vraiment ce qu'il prétendait être. Par exemple, le fait de prêcher, le fait de guérir le malade. Et durant 3 ans, toutes ces choses-là, Jésus les a quand même accomplies. Mais il restait une seule chose pour laquelle il fallait vraiment confirmer que c'était le Messie. Écoutez ce que ces gens disent dans Matthieu 27, 62. Ils partent voir Pilate pour lui dire quelque chose d'effort. Il dit, le lendemain qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, 63 du Matthieu 27, et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première.
Oui.
Vous voyez la réflexion?
Oui.
La réflexion, c'est que malgré tout ce qu'il a fait, on ne veut pas qu'il aboutisse
à la résurrection.
À la résurrection, parce que sinon, on sera fini. Deuxième signification importante de la résurrection, c'est la signification des apôtres eux-mêmes. C'est que les apôtres, comme je le dis ici, ils étaient aussi dans le désespoir lorsque Jésus était mort. J'ai parlé de Pierre qui était même rentré vers ses poissons et tout le reste. Quand ils ont appris que Jésus était ressuscité, alors là, tout le monde a eu le courage. Tout le monde s'est dit, donc, toutes ces choses que nous avons apprises jusqu'ici, alors ces choses-là étaient vraies. Et la dernière signification, c'est pour nous l'Église. Je l'ai déjà lu, l'apôtre Paul qui dit que sans la résurrection du Seigneur, notre foi est vaine. Donc, c'est vraiment parmi des éléments clés qui attestent que Jésus est réellement celui qui devait venir pour notre salut.
Amen. Oui. Amen.
Donc, comme le temps nous talonne, quand Jean Grady parle, je me rappelle de notre frère Kasekwa. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent Kasekwa.
Oui.
Kasekwa nous a fait rire quand il parlait de la résurrection un jour, quand il était déjà au début de sa politique. Il disait que lui, s'il était disciple, le jour de la résurrection, c'était le jour de faire une marche. Une grande marche avec Jésus, comme il est ressuscité. Et la première destination, c'est chez Pilate.
Oui.
Vous voyez, un politicien qui réfléchit. Première destination chez Pilate, pour dire, le voilà,
je suis là.
Il est ressuscité. Donc, c'est ça, effectivement, comme il l'a dit, triomphal.
Oui.
Nous n'avons aucun autre message que ce message-là. Nous sommes basés sur la résurrection. Et c'est ce qui nous donne la force d'aller annoncer, en fait. Nous annonçons parce que notre Seigneur est ressuscité.
Amen.
Alors, Kasekwa disait, bon, alors malheureusement, il n'est pas à Paris, mais on allait l'attraper et on va chez Pilate. Après, chez Pilate, on se dirige où? Peut-être chez Hérode. Et donc, on dit aux gens, vous avez perdu votre temps. il est ressuscité. Pardon. Mais c'est ce que nous annonçons effectivement. Nous annonçons qu'il est ressuscité.
Amen.
Et même si on ne peut pas avoir cette marche, nous avons cette possibilité de le faire par notre vie, par le message, par tout ce que nous faisons. Amen. Nous montrons qu'il est ressuscité.
Amen.
C'est ça.
Gloire au Seigneur. J'ai vu Jean Grady voulait ajouter quelque chose. En
fait, ça, c'est merveilleux aussi parce que la résurrection devient l'avantage du christianisme sur toutes les autres religions. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu viens, tu dis, OK, je suis le Messie. On va te laisser faire les miracles.
Oui.
On va te laisser faire des croisades. Mais, dernière épreuve, mère...
Et puis, ressuscite encore. Il y a même une histoire sur Mahomet, mais je ne vais pas la raconter ici.
Donc, c'est pourquoi la résurrection est importante. C'est un peu comme le but qu'on marque à la dernière minute, là. Vous connaissez ce genre de but, là qui donne la victoire à une équipe et voilà, on ne peut plus changer les scores.
Merci beaucoup. Très, très important. Très, très important. Je vais quand même partager un verset avec nous, Romains 4, 24 et 25, toujours sur la résurrection, avant de passer à d'autres questions. Romains 4, 24 et 25 dit, « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Il est ressuscité pour notre justification. Donc, le pardon, nous sommes rendus justes complètement grâce aussi à cette résurrection. Et l'un des exemples clés que j'aime beaucoup, c'est celui de Pierre, qui a été restauré justement après avoir renié Christ après la résurrection. Il a vraiment été justifié complètement, pardon complet. Alors, deux dernières questions et après on pourra clôturer ces moments fantastiques. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Allô? Est-ce qu'on est en train d'apprendre quelque chose? Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on peut les manifester? Waouh, merci beaucoup. Voilà, la neuvième question, voilà, c'est vraiment une question de pratique maintenant. Oui. C'est comment témoigner l'évangile dans un environnement non chrétien? Vous vous retrouvez à l'université, ce sont des environnements laïcs qui ne sont pas nécessairement des lieux de culte. Comment témoigner là-bas? Vous pouvez vous retrouver dans un pays musulman, dans un pays non chrétien, ainsi de suite. Comment témoigner l'évangile dans ce genre d'environnement? On va commencer avec les docteurs. Oui.
Ce qui m'est venu en tête, c'est cette histoire de démoniaques qui vivaient dans les cimetières. Oui, la Bible dit, quand vous lisez Luc chapitre 8 et dans d'autres évangiles, c'était dans une partie païenne. Ouais, et alors Jésus a connaissait l'histoire, là renvoyait les démons, légion, ils sont allés dans les cochons et les cochons dans le lac. Et cet homme-là a dit, je voudrais te suivre. Tout de suite là, il n'est pas encore affermi.
Oui.
Jésus a refusé. Il a dit non, plutôt il faut aller dire, raconter dans ton village ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça. Voilà la première chose. Il était dans un milieu païen. Oui. Et alors, il faut raconter ce que le, Seigneur, que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça le défi, je crois que Jean Grady a soulevé ça. Si le messager n'a pas rencontré le Seigneur, il n'a rien message à raconter de ce que le Seigneur a fait pour lui. C'est toujours un élément très important lorsque tu racontes ce que le Seigneur a fait pour toi. Ça suffit. Et tu as le privilège, c'est qu'il fera chaque jour quelque chose pour toi. Et tu peux être à mesure d'avoir un message nouveau chaque jour. Amen. Donc, allez et racontez ce que le Seigneur a fait. Et vivez la parole comme nous l'avons dit.
Allez et racontez ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est aussi simple que ça. Jean Grady?
Oui, je vais aussi rajouter un peu. J'aime bien un conseil que l'apôtre Paul a donné à son fils Timothée. De Timothée 4:2, il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Réprends, censure, exhorte, etc. C'est vrai qu'ici, les conseils sont bien cadrés sur la conduite d'une église locale.
Oui.
Mais la partie favorable ou non qui m'a toujours plu, c'est que Paul estime que ça ne sera toujours pas favorable.
Oui.
Il y aura des occasions où ça ne sera pas favorable. Je peux peut-être donner ma petite expérience parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'évangélisation à l'université.
Oui.
Et les occasions favorables, c'est aussi se démontrer différent. C'est aussi faire profiter l'évangile de nos petites influences que nous avons.
Oui.
Je me rappelle un jour, on avait un culte à l'université, mais les étudiants ne voulaient pas participer parce qu'on était en train de faire un TP. Oui. Malheureusement, l'enseignant nous avait bloqués dans l'auditoire.
Oui.
Il dit, c'est lui qui sort, c'est celui qui finit son
TP.
Son TP. Mm. Il n'y avait presque pas de connexion Internet parce que c'était un TP brisque. Mm. Et je me suis justement rendu compte que moi, j'avais un peu plus de forfait.
Mm.
Donc, j'ai dit aux amis, OK, je vous partage la connexion.
Oui.
Comme ça, on travaille les TP. Et tout le monde dit, ah, pasteur, ah, des pasteurs comme ça. Les pasteurs assis vous amouillent chaud. J'ai partagé les forfaits.
Mm.
On a travaillé les TP. Et quand les TP finit, j'ai dit, ah, les amis, il y a culte. Mm. Et puis, ils se sont regardés, ah. Bon, quand même, le pasteur nous a donné les forfaits.
Connexion, ouais.
Ils se sont quand même rendus un peu plus redevables
oui.
par rapport au bon geste que j'avais posé
oui.
vis-à-vis d'eux pour pouvoir venir dans le culte. Et certains ont été gagnés ce jour-là parce que le prédicateur était vraiment évangélique.
Wow.
Donc, ça aussi, ça nous aide de façon pratique. Notre petite influence. Non, moi, je ne suis rien, je suis juste CP. Oui, juste le fait d'être CP, tu peux aider quelqu'un
oui.
avec l'évangile. Juste le fait d'être dans, cette porte, dans ces portails de cette banque, dans un poste. C'est même ce que Jésus disait. Et nous sommes des villes situées au-dessus de la montagne. Oui. Nous ne pouvons pas être cachés. Quand les gens viennent vers nous, c'est aussi l'opportunité de leur partager la parole.
Wow, merci beaucoup. Je résume ça en un mot, les services. Être prêt à servir. Nous vivons dans un monde où tout le monde n'est pas prêt à aider celui qui est à côté de lui. On tire généralement la couverture vers soi-même. Et c'est tellement rare d'avoir des personnes qui se donnent aux autres, qui prennent le temps de vous écouter, qui prennent le temps de vous aider et de se mettre à votre place, d'avoir cette empathie-là. Soyons donc de ceux-là, parce que c'est vraiment une préparation de la terre que quelqu'un d'autre pourra peut-être venir et semer quelque chose. Et ça portera des grands fruits. Donc, les services, c'est quelque chose de clé. Dans ces endroits-là où on n'est peut-être pas autorisé à parler ouvertement, soyons de ceux-là vraiment qui démontrent l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Amen. Voilà, la dernière question, c'est une question très compliquée. Donc, je vais juste vous donner peut-être à chacun, juste de nous partager un dernier mot. Si c'est l'évangile, vous allez nous le dire. C'est quoi la bonne nouvelle? Chacun d'entre nous va le dire à sa manière et après, on va clôturer. What is the good news? C'est quoi la bonne nouvelle? On commence avec le docteur et après Jean Grady aussi va ajouter.
La bonne nouvelle n'est pas toujours ce qui te plaît. Parce que nous avons trouvé effectivement beaucoup de gens à qui on apporte la bonne nouvelle, mais ils se fâchent. Oui, pourtant ça pourrait apporter la joie. Lorsque vous apportez la bonne nouvelle. Donc, ne soyez pas aussi étonnés que lorsque vous avez bien préparé un plat avec des fruits et ceux qui aiment la viande avec la viande
les haricots blancs.
Et que quelqu'un dise non, ce n'est pas ça. Mais lorsqu'il arrive maintenant à l'étape de la repentance, souvent il regrette que plusieurs fois, on lui a apporté des beaux plats qu'il n'a pas pris. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai, mais parfois, on ne découvre pas que c'est ce qu'il me faut. Mais quand on les découvre, effectivement, on se tourne totalement et on a la joie que personne ne peut encore arrêter.
Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur. Jean Grady.
C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur pendant que nos deux orateurs gagnent leur place? Merci beaucoup vraiment pour ces moments. Ça a été fantastique. Je pense qu'on a tous appris quelque chose, n'est-ce pas? Alors, on va s'élever et je vais demander aux médias, si possible, de nous mettre ces versets pour que nous puissions les lire ensemble, n'est-ce pas? Ça serait une bonne manière de conclure cette série Good News. On va tous lire Jean 3, 16 pour nous rappeler encore une fois de cette bonne nouvelle. Média, est-ce qu'on est prêt? Je sais que c'est une petite surprise. Voilà, c'est parti. Car Dieu a tant aimé, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. Amen. Gloire au Seigneur.
Amen.
Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, docteur Isaac et le frère Jean Grady.